Radio Okapi.
Présenté par Belinda Bossouma, voici le sommaire. Les armes ont encore parlé cet avant-midi à Ngungu et vers le chef du territoire de Massissi au nord Kivu. Selon plusieurs sources, après avoir été délogés par l'armée congolaise, les rebelles du M23 sont de nouveau revenus à la charge. L'hôtel de ville de Kinshasa vient de publier la nouvelle grille tarifaire des prix dans le transport en commun pour la capitale. Dans son arrêté, le gouverneur revient sur l'interdiction de la pratique de demi-terrain ou sectionnement des trajets. Il interdit aussi celle de percevoir le prix de la course au point de départ. Et puis, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC, appelle les acteurs médiatiques et politiques à adopter des discours responsables et unificateurs via les médias. Il promet des sanctions sévères à l'encontre des réfractaires à ces mesures. Christian Bossembe est l'invité de ce journal. Madame, Messieurs, bonjour. Ce journal part du Nord Kivu. Des tirs nourris ont de nouveau été entendus tout l'avant-midi de ce jeudi dans l'agglomération de Ngungu, ainsi qu'au centre et alentour du chef du territoire de Massissi. Selon plusieurs sources, après avoir été délogés par l'armée congolaise de ses entités, les rebelles du M23 sont de nouveau revenus à la charge. Pendant ce temps, la situation sécuritaire reste volatile autour de la cité de Sake. Le récit de Bernardin Nyangi.
Alors que les militaires FARDC et les Wazalendo ont passé nuit en Ngungu et à Massissi Centre, nos sources indiquent que les rebelles M23 sont revenus à la charge ce jeudi matin. Ainsi donc, depuis 7 heures locales, le combat a repris autour de la cité de Ngungu. Aussi, une partie des rebelles M23 qui campaient toujours sur la colline Kaongole, près du centre de Massissi, auraient lancé l'attaque à partir de 9 heures locales. Certaines sources civiles parlent de la reprise de Massissi Centre par la rébellion après environ une heure de combat, alors qu'il n'y a pas assez de détails à présent sur l'issue des affrontements au niveau de Ngungu, où l'on signalait aussi la présence des rebelles M23 dans une partie périphérique jusqu'à mercredi soir. La situation sécuritaire se dégrade dans le territoire de Massissi depuis la reprise de ces combats. Le porte-parole de la 34e région militaire, le lieutenant-colonel Guillaume Ndjike, indique que l'armée répond par cette opération offensive aux violations incessantes du cessez-le-feu par le M23, appuyé par le Rwanda. Par ailleurs, Sake se réveille dans un calme précaire après un échange de tirs autour des 18h30 locales hier, à l'issue duquel deux bombes larguées par le M23 sont tombées à Mubambiro sans faire de victimes. Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
Par ailleurs, les conditions sécuritaires se dégradent considérablement dans les territoires de Massissi à la suite de la présence d'hommes armés qui s'affrontent de manière récurrente dans la zone. La population vit dans la psychose permanente et soumise à des exactions alors qu'elle se déplace d'un milieu à un autre, fuyant les affrontements. Les activités socio-économiques sont paralysées depuis l'intensification des combats. Au moins 9 civils ont été tués alors que tous les bureaux de l'administration au chef-lieu du territoire de Massissi ont été vandalisés et pillés, indiquent nos sources. Sifa Maguru nous raconte.
D'après les témoignages de certains acteurs que nous avons joints dans la région, un grand nombre d'habitants a trouvé refuge à l'hôpital général de Massissi. La situation n'est pas du tout rassurante et la population craint une représaille des rebelles contre les FARDC et les Wazalendo. Le trafic n'a pas encore repris sur l'axe Massissi-Sake, alors que le week-end dernier, pendant que les rebelles occupaient les chefs-lieux, le prix du transport a connu un pic allant de 150 000 à 300 000 francs congolais par course à moto entre Sake et Massissi Centre. Nos sources affirment en outre que les voyageurs sont victimes des pillages des hommes en armes, mais aussi ils sont soumis à une multiplicité de barrières et toutes sortes de tracasseries et arrestations arbitraires. Lors de l'occupation des Massissi Centre, tous les bureaux administratifs, les équipements et meubles ont été vandalisés et des ordinateurs emportés par des rebelles, mais aussi des boutiques pillées. Depuis l'intensification des affrontements, au moins 9 civils ont été tués, dont un infirmier, une femme déplacée ainsi que 6 enfants, rapportent nos sources dans la région. Goma, Sifa Maguru, Radio Okapi.
Nord Kivu toujours, les affrontements ont repris ce jeudi matin dans le sud du territoire de Lubero entre les FARDC et les rebelles du M23. Selon des sources locales et sécuritaires, les rebelles ont attaqué les positions des FARDC dans les villages de Kulo et Timbo-Timbo. Nous sommes à plus de 50 km de Lubero centre. Les mêmes sources rapportent qu'hier, une bombe larguée par les rebelles du M23 est tombée à Kavuavua, un village de la localité de Kitsombiro, situé à 35 km de Lubero centre, causant un mort. Des sources militaires confirment ces attaques sans plus de détails. Pendant ce temps, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a présidé hier, mercredi, une réunion du Conseil supérieur de la défense élargie, réunion où la situation opérationnelle dans toute la RDC, spécifiquement dans l'Est, a été évoquée. Selon le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, qui a fait le compte-rendu de cette réunion, les pans du territoire qui sont occupés par les forces d'agression seront tous récupérés un par un. Je propose de suivre le ministre Patrick Muyaya dans cet extrait. Très sélectionné par Blaise Makassinandes.
Nous venons de terminer une réunion du Conseil supérieur de la défense élargie où nous avons essentiellement passé en revue la situation opérationnelle dans toute la République démocratique du Congo, mais spécifiquement dans l'Est de la République démocratique du Congo. Cette réunion du Conseil supérieur de la défense était la première avec le nouveau chef d'état-major général qui a eu à la suite du vice-premier ministre de la défense donner les grands axes de sa vision sur ce qui concerne notamment la montée en puissance de forces armées de la République démocratique du Congo, mais la réponse militaire que nous apportons face à la guerre d'agression qui nous est menée par les Rwandais et ses supplétifs terroristes du M23. Dans le rapport qui a été fait par le chef d'état-major général, nos troupes ont repris l'initiative et nous ne voulons pas aller dans des annonces, mais vous allez voir que dans le jour qui vient, la montée en puissance de forces armées de la République démocratique du Congo va se poursuivre et les pans du territoire qui sont occupés par les forces d'agression seront récupérés. Nous aurons régulièrement l'occasion de vous faire le point de ces progrès.
Rendons-nous en Ituri. Toutes les activités sont paralysées depuis ce jeudi matin à Biakato centre, dans le territoire de Mambasa. La synergie des structures de la société civile a décrété 3 journées ville morte dans la chefferie des Babila-Babombi pour décrier le regain d'insécurité dans cette entité. Ces structures déplorent notamment le meurtre des civils et le banditisme armé de plusieurs groupes armés actifs dans le milieu. Reportage de Martial Kizabiamungu.
Boutiques, magasins, marchés et écoles n'ont pas ouvert leurs portes ce jeudi à Biakato centre. La synergie des structures de la société civile de la chefferie du Babila-Babombi dans les territoires de Mambasa fustige plusieurs cas d'insécurité enregistrés ce dernier jour à Biakato. Il s'agit entre autres des tueries de civils, d'extorsion de biens et des accrochages entre les FARDC et certains miliciens qui se réclament de Wazalendo. La coordination territoriale de la nouvelle société civile du Congo à Mambasa demande aux autorités de mettre fin à la terreur que subit au quotidien la population dans cette entité. Son coordonnateur, Josué Paloukou.
Il faut que l'autorité de l'État soit établie dans la zone, que les patrouilles soient organisées de manière régulière parce que les bandits à main armée circulent et font leur mouvement à tout moment qu'ils veulent. Alors que nous avons une police, nous avons un service de renseignement, nous avons une armée dans la zone.
Nous n'avons pas encore réussi à joindre l'administrateur du territoire des Mambasa à ce sujet. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Du côté du Congo central, nous apprenons la recrudescence des cas d'insécurité dans la cité côtière de Mwanda. 2 cas de vol à main armée ont été enregistrés hier en pleine journée à 2 endroits différents et à des heures différentes. Jusque ce jeudi, les auteurs ne sont toujours pas connus. La société civile qui dénonce ce énième cas d'extorsion attribue la persistance de l'insécurité à Mwanda par la défaillance du service des renseignements. C'est un reportage de Nana Plurish Mambou, rendu ici par Emmanuel Elamegi.
Un premier cas d'extorsion a eu lieu vers 6h du matin d'hier, mercredi. C'était dans la localité 5 Maisons, vers l'entrée de la boulangerie Montpain. La victime, c'était un agent de transactions monnaie nommé Cédric Mokeli. Des hommes armés non identifiés ont réussi à emporter son sac contenant 15 millions de francs congolais, y compris le téléphone, après lui avoir menacé de mort. C'est aux environs de midi que le deuxième cas de braquage a été signalé dans la maison de transactions monnaie située en face de l'ancien dépôt Bralima. La victime, sous pression et peur bleue du revolver braqué sur la tête, a fini par céder son sac d'argent au criminel. La société civile, qui s'est dit préoccupée par cette insécurité à répétition, se pose la question de savoir comment la circulation des armes continue à Moanda en dépit du verrouillage par les services de sécurité de tous les accès de cette entité. La même source attribue cette situation à une défaillance des services de renseignement, service qui n'est jamais parvenu à démanteler un seul réseau de criminels. Selon cette structure, la population qui devrait dénoncer afin d'aider ses services de renseignement à mieux travailler se montre réticente car elle ignore si l'insécurité qui secoue Moanda dépend de l'incompétence, du laxisme ou de la complicité des services de sécurité.
Je vous le disais en titre, l'hôtel de ville de Kinshasa vient de publier la nouvelle grille tarifaire des prix dans le transport en commun pour la capitale. Pour les minibus et les taxibus par exemple, les courses partant de la gare centrale pour l'Emba Terminus reviennent à 2000 francs congolais et 2500 francs pour atteindre Rond-Point Ngaba et 3000 de la gare centrale à l'UPN. Dans son arrêté, le gouverneur de la ville de Kinshasa revient sur l'interdiction de la pratique de demi-terrain ou sectionnement des trajets. Il interdit aussi celle de percevoir le prix de la course au point de départ. Comment se présente la situation sur terrain? Babel Mpongo Masimango et Mnosa Yamasiki.
Sur terrain, rien n'a encore changé. Les conducteurs ont gardé leurs prises habituelles, ainsi que les demi-terrains et dans les taxibus, surtout ceux faisant le long trajet. Le paiement de la course continue de se faire avant de prendre place à bord. Ces passagers rencontrés sur le boulevard du 30 juin témoignent.
Je vais au Rond-Point Ngaba, il y a 4 000. Avant de monter, je viens de payer chez le receveur.
Et au Congo, à Victor, j'ai payé 2 000 francs. De Victor jusqu'à Willery, j'ai payé 1 500. Puis de Willery, résidu des eaux, j'ai payé 1 000 francs. Et puis de la région des eaux jusqu'ici, j'ai payé aussi 1 000 francs.
Il plaide pour un suivi afin que la nouvelle tarification soit respectée.
Le responsable de la SECO doit vraiment interpeller leurs affiliés. Il faut qu'il y ait suivi aussi la même gouverneur de la ville.
Concernant la nouvelle grille, justement, les chauffeurs relèvent ces contraintes auxquelles ils font face au quotidien.
Ce qui nous dérange, c'est les mauvais états des routes, ainsi que les temps et les carburants que nous perdons dans les bouchons. Ajoutez à cela les versements journaliers que nous devons atteindre.
De son côté, la SECO, Association des chauffeurs du Congo, membre de la commission tarifaire, explique les dispositions prises à son niveau pour l'application de la nouvelle grille. Son président, bienvenue Kakoulé.
Il y a des causeries morales que nous faisons avec les chauffeurs. Nous devons faire voir aussi au patron des véhicules tout ce qu'il y a comme contrainte.
Les contrevenants à ces nouvelles mesures seront soumis au paiement des amendes allant de 50 à 200 dollars américains.
Et puis, que devient la fourniture d'eau dans certains quartiers de sept communes de la partie ouest de Kinshasa, 11 mois après la mise en service du premier module de l'usine de la régie des eaux de Binzaouzon, Ngaliema? Les avis des Kinois des zones ciblées avec ce nouveau dispositif sont diversifiés. Si certains reconnaissent une amélioration, d'autres par contre disent vivre encore un calvaire. Cela compte tenu des difficultés à s'approvisionner en eau potable au moment où les travaux se poursuivent encore. Travaux de pose des grandes conduites souterraines d'extension du réseau des distributions débuté en août 2024. C'est un reportage signé Billy Van Lutumba.
Cette usine a une capacité de production de 110 000 m3 par jour pour desservir plus de 1 500 000 consommateurs. Mamouchela réside à Mitendi, commune de Mongafula, une zone parmi les bénéficiaires de la production de ce premier module.
Pas régulièrement, il y a toujours des coupures tout le temps, ça vient deux fois par semaine chez moi.
Une partie des Selemba, notamment Cité Verte, Badiadingi, Camping, Kitoki Mossi, figure parmi les zones à desservir. Madame Benga habite Badiadingi dans la commune de Selemba.
Par rapport aux années qui viennent de passer, c'était terrible. On pouvait faire même 2 semaines sans eau. Surtout dans notre quartier de Badiadingi, il y a quand même une petite amélioration.
Monsieur Sungani de Lutendele à Mongafula reconnaît une petite amélioration, mais déplore un fait.
L'eau ne vient que vers 22h, ou soit 2h du matin, 1h. Mais ces derniers temps, on voit un peu, peut-être la journée, ça peut sortir un peu, 1h ou 30 minutes, et puis ça coupe.
De ce petit tour, il ressort que les bienheureux jusque-là sont ceux du quartier Mbizaozon, Météo, Mbizadelvo, en croit ses témoignages.
L'eau coule chaque jour, ça coule vraiment, sauf s'il y a la pluie. Hein.
Depuis la construction de cette usine, il y a l'eau qui coule vraiment en permanence, à n'importe quelle heure.
Signalons qu'actuellement, des conduites souterraines sont en cours d'installation à l'entrée du quartier Montfleury. Ils iront dans toutes les communes retenues, signale une source proche de la régie des eaux.
Dans l'actualité aussi, la commission d'intégrité et médiation électorale CIMÉ s'implique dans les débats sur la réforme constitutionnelle. Dans une déclaration hier devant les médias à Kinshasa, cette organisation recommande au chef de l'État d'initier des consultations avant la mise en place de la commission en charge d'examiner cette question qui fait débat. Détail avec Blaise Ndongala Mayanda.
La commission d'intégration et médiation électorale estime que le président de la République devrait au préalable initier des consultations avec les forces politiques et sociales du pays afin de mettre en place la commission chargée d'examiner l'opportunité d'une réforme constitutionnelle. La CIMÉ justifie sa proposition par ce qu'elle qualifie des tensions politiques constatées ces derniers temps au sein de la classe politique congolaise. Le président de cette structure de la société civile, Idriss Katenga Mouloa, n'a pas cependant ignoré la contribution des scientifiques pour trouver des solutions idoines à cette question. Il regrette seulement que ce débat sur la réforme constitutionnelle ait ajouté son lot de tensions avec d'un côté ses partisans ayant longtemps hésité entre révision et changement et de l'autre côté ceux qui s'y opposent soupçonnant les autorités en place de chercher à se maintenir au pouvoir. Opérationnel depuis mai 2014, la CIMÉ a pour but d'accompagner le processus électoral à travers la prévention, la gestion et la médiation des conflits liés aux élections.
Actualité internationale.
Nous sommes au Gabon. Des anciens responsables politiques, précédemment adversaires et désormais unis contre le pouvoir, ont dénoncé les engagements non tenus selon eux du Comité pour la transition et la restauration des institutions. Ils exigent en particulier la non-participation des militaires aux élections de fin de transition.
L'invité.
Le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC, Christian Bossembe, appelle les acteurs médiatiques et politiques à adopter des discours responsables et unificateurs via les médias. Invité de Radio Capi, il promet des sanctions sévères à l'encontre des réfractaires à ces mesures. À travers son appel, il réaffirme son combat et celui de son institution de faire de l'espace médiatique congolais un levier de cohésion et de paix. Christian Bossembe s'entretient à ce sujet avec Blaise Ndongala.
Président Christian Bossembe, bonjour.
Bonjour.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication vient de lancer un appel au discours responsable et conciliant. Quelle analyse faites-vous de cet appel?
Je rappelle que j'agis en tant que président de l'institution, position de la plénière. Je crois qu'il était important de rappeler aux médias, mais surtout aux politiciens, c'est-à-dire aux hommes politiques de notre pays, de rappeler la responsabilité, éviter les discours de haine. Je crois que c'est très important pour nous de le faire en ce moment où nous avons l'impression d'assister à un théâtre, une manipulation de tout genre, la prolifération des discours de haine, des discours séparatistes. Et à mon avis, c'était le moment d'arrêter ça et de dire que nous pouvons construire un nouveau pays.
Les acteurs sociaux, religieux et autres passent aussi par ces messages des clivages. Pourquoi avoir plus ciblé les acteurs politiques?
Nous n'avons pas forcément oublié les autres composantes de la société, mais le message était destiné aux acteurs politiques, peut-être parce que nous ne sommes pas encore tombés sur des messages des hommes des dieux ou de façon générale. Nous avons fait appel à la conscience collective, à la responsabilité. Et donc, si nous tombons sur des messages comme ça venant des pasteurs ou de je ne sais qui d'autre, eh bien, on n'hésitera pas de rappeler cela. Parce que les Congolais devraient comprendre qu'il est important pour nous de cultiver la notion de la cohésion nationale, de protéger les acquis de la démocratie et d'éviter de monter les tribus les unes contre les autres. Et nous n'allons pas tolérer cela. Voilà pourquoi nous l'avons dit, que le média devrait se refuser d'être le canal de relais de ces messages séparatistes. Et les politiciens devraient en principe éviter d'aller dans ce sens-là. Puisque, vous savez, les guerres civiles sont les guerres les plus destructrices. Alors, il ne faut pas tomber dans la stigmatisation des tribus, tomber dans la stigmatisation des ethnies. Nous sommes en train de construire une nation. Et quand on parle de la nation, ça veut dire la sublimation du vivre ensemble et surtout de la cohésion nationale.
Qu'adviendra-t-il aux réfracteurs à votre message ou à votre appel?
Les médias seront sanctionnés conformément à nos lois, ça c'est inévitable. Et pour les opérateurs politiques, si vous voulez, les politiciens, eux seront privés des médias comme le veut notre loi. Donc si un opérateur politique ou un politicien tombe sur le coup, en tout cas nous n'allons pas hésiter parce que nous avons la responsabilité de protéger nos communautés, de protéger notre culture, et nous n'allons pas fléchir. Peu importe d'où le politicien viendra, que ce soit n'importe quel bord, nous allons sanctionner sévèrement.
À part ces messages, qu'est-ce que vous comptez faire pour garantir un espace d'échange constructif à travers les médias congolais?
Nous avons des projets, le forum sur la cohésion nationale. Nous sommes en train de penser à cela et mettre ensemble autour d'une table toutes les couches de notre société. Nous pensons que si le gouvernement nous aide à le faire, eh bien on le réussira. C'est-à-dire que autour d'une table, on réunira tous les communicateurs, tous les partis politiques, toutes les composantes pour réfléchir. Ça sera un forum sur la paix et sur la cohésion nationale, parce que nous estimons que c'est très important. On ne le sent peut-être pas, mais nous avons des rapports de monitoring qui prouvent à suffisance que nous nous déchirons de plus en plus. Et lorsque vous suivez les radios communautaires dans les provinces, lorsque vous suivez les radios ici à Kinshasa, les réseaux sociaux, on a tendance à stigmatiser, sinon à employer des termes subtils, mais qui renvoient à la division, qui renvoient à la fracture sociale. Et ça, ce n'est vraiment pas une bonne chose. Toutes les tribus du Congo doivent vivre ensemble. Depuis 1960, nous avons réussi à vivre ensemble. Et ce n'est pas aujourd'hui que nous allons nous diviser à cause des intérêts que je ne comprends pas.
Vous comptez l'organiser quand, ces forums?
Nous attendons que le gouvernement, bien évidemment, nous aide à réussir à mettre en place cette structure, parce que là, nous l'avons déjà fait. Le dossier se trouve au niveau du budget et nous attendons la faisabilité au courant de l'année 2025. Et si on arrive à le faire, ça serait une très bonne chose, parce que ça permettrait de réunir tout le monde, même ceux qui sont en province, les chefs coutumiers, les notables, toutes les couches de la société. Nous devons parler un même langage, une même langue. Ça sera l'unité, ça sera la paix, ça sera la concorde.
Président Christian Bosembe, nous vous disons merci.
Je vous remercie.
Le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC, répondait aux questions de Blaise Ndongala-Mayanda. Par ici prend fin ce journal, coordonné par Élisée Tchikotachi-Vueta, sous la supervision de Martin Sebujangwe, d'Eps Vita. À la mise en onde, merci d'avoir été des nôtres.